Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un jour de 1973, se croisant par hasard dans un couloir de la maison de la radio, Pierre Schaeffer et Raymond Aron eurent envie de parler ensemble sur le champ de deux ou trois choses qui travaillaient les esprits des sociétés occidentales depuis et même avant le printemps de 1968. À partir de cette rencontre fortuite, s'enclencha pour l'émission Dialogue une discussion enregistrée au Des Beautés entre ces deux esprits aussi libres que non conformistes. Qu'avaient-ils donc à se dire ces deux-là de si urgent ? Si l'on se fie au déroulement de la conversation, telle que nous allons l'entendre, on peut supposer que ce fut sans doute à l'initiative de Pierre Schaeffer, qui était en quelque sorte dans ses murs, dans la maison ronde, que le dialogue eut lieu à ce moment. Pierre Schaeffer, ayant manifestement le désir d'entendre ce qu'était la perception profonde par Raymond Aron des mouvements de contestation de la jeunesse qui se prolongeaient au-delà de 68. Ce qui permettait à Raymond Aron d'interroger à son tour Pierre Schaeffer sur la lecture qu'il en avait lui-même. Cela donnait lieu à une discussion amicale, sincère et passionnante, dont l'écoute révélera que les questions politiques qui sont posées de la manière la plus brûlante aux sociétés industrielles plus d'un demi-siècle après s'imposaient déjà clairement aux consciences les plus éveillées au début des années 70 du XXe siècle. Dialogue, Pierre Schaeffer et Raymond Aron sur les mutations de la société, une émission proposée par Roger Pilaudin, diffusée la première fois le 13 février 1973 sur France Culture.
Voici un dialogue entre Raymond Aron et Pierre Schaeffer qui échappe à notre formule habituelle. En cela qu'il n'a pas été enregistré comme les autres au studio 105 et en public, mais organisé par Claude Gleyman un jour que les deux protagonistes, se rencontrant par hasard au détour d'un couloir de la maison de l'ORTF, avaient envie de discuter ensemble et d'urgence de choses et d'autres. Ces choses n'étant pas n'importe quelle chose, on s'en doute, compte tenu des deux personnalités en question. Ce jour-là, donc, Pierre Schaeffer commença par dire à Raymond Aron...
Il y a d'abord cette idée de convergence entre les systèmes qui nous est commune. Raymond Aron le dit des sociétés en général, les deux grands types de sociétés, marxistes et capitalistes. Et moi, je le pense aussi, depuis peu de temps, je dois dire, des systèmes de communication qu'elles engendrent. Je dirais ensuite que un second point, c'est... ce doute sur les libertés, les limites des libertés, sur le progrès, et je partage ce doute. Je partage aussi cette idée d'une dialectique nécessaire, non pas tellement au sens de la dialectique historique, que de l'affrontement des contraires, que de l'affrontement des contradictions, dont ne sort pas si aisément une troisième voie. Et enfin, en ce qui concerne les événements les plus récents et la tranche de vie sociale que nous vivons en ce moment, je partage aussi avec Raymond Aron l'idée de fragilité de la société. C'est-à-dire que si sympathiques puissent être les poussées de jeunesse, les poussées étudiantines, pour lesquelles je n'ai peut-être pas tout à fait la même analyse au départ que Raymond Aron, je me retrouve avec lui à la fin dans l'idée d'une fragilité d'une société que je n'ai pas du tout envie de détruire. Je ne vois pas pourquoi on la détruirait alors qu'il sera si difficile de l'aménager, de l'améliorer.
Bien, eh bien, vous avez suggéré un grand nombre de problèmes. Le point de départ, c'est l'idée de convergence. Or, curieusement, la thèse de la convergence des sociétés socialistes et des sociétés capitalistes est une thèse que l'on a lue dans les 18 leçons et à laquelle, au fond, je ne crois pas. Je n'y crois pas, ou tout au moins, je la nuance considérablement. Il faut se souvenir que ce petit livre, qui est celui de tous mes livres qui a eu le plus de lecteurs, puisque je crois que le tirage dans le livre de poche a dépassé 200 000, c'est un cours. Et c'est un cours ancien, en ce sens qu'il a été professé en Sorbonne en 1955, et en toute naïveté, je voulais simplement aider des étudiants qui vivaient dans l'idéologie à reconnaître plus ou moins le monde tel que je croyais qu'il était. Donc le livre est antérieur au discours Khrouchtchev. Et à l'époque où il y avait encore des passions idéologiques extraordinaires des deux côtés, j'avais le désir de montrer que certains éléments, certaines institutions des deux types de sociétés étaient plus ou moins semblables. Mais ni à l'époque, ni depuis, je n'ai pensé au moins qu'à court terme, les sociétés de type soviétique et les sociétés de type occidental capitaliste ne se rejoindraient. C'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer deux thèses. L'une que je fais mienne, l'autre que l'on est tenté de m'attribuer mais que je récuse. La thèse que je fais mienne, c'est que si l'on compare les sociétés industrialisées soviétiques et occidentales, elles ont peut-être plus de traits communs que les sociétés capitalistes développées n'en ont avec les sociétés capitalistes non développées ou sous-développées. C'est-à-dire que je vois plus de traits communs entre l'Union soviétique et, disons, l'Europe occidentale, qu'entre l'Europe occidentale et les foules de l'Inde. Mais d'un autre côté, deuxième thèse que je récuse, à horizon historique, le système fondé sur le monopole du pouvoir et de l'idéologie d'un parti politique, le système fondé sur la généralisation de la propriété collective des instruments de production et le système de planification autoritaire, ce sont trois des caractéristiques des systèmes soviétiques, ces systèmes soviétiques ne me semblent pas aller d'eux-mêmes vers les traits majeurs de nos sociétés occidentales.
Non, c'est pas du tout ça que j'ai voulu vous faire dire, n'est-ce pas? J'ai bien compris. Vous insistez assez sur le nécessaire pluralisme d'une société qui, heureusement, se divise assez pour ne pas devenir totalitaire, et les dangers du totalitarisme, quel qu'il soit. Alors, c'est pas cette convergence-là, n'est-ce pas, que j'ai voulu vous attribuer. Est-ce que, quand j'aime chez vous trouver le thème de la convergence, c'est parce que, disons que c'est plutôt un système critique de la convergence que la constatation du fait de la convergence. Moi, je pourrais vous dire aussi que je trouve naturellement d'énormes différences entre le système de la radio-télévision américain et soviétique. Mais ce qui m'intéresse, derrière des différences énormes, c'est de voir ce que Galbraith appelle la technostructure, n'est-ce pas, et la composante.
Oui, bien entendu, mais ce que je suis tenté de dire, c'est que, étant admis qu'il y a une technostructure dans les grands conglomérats américains d'une part, dans les grands conglomérats soviétiques de l'autre, il suffit, à mon avis, de s'être promené aux États-Unis d'un côté, en Union soviétique de l'autre, pour sentir, pour ainsi dire, physiquement, la différence des civilisations et de l'air même que l'on respire. Je ne sais pas si vous avez été si peu que ce soit en Union soviétique, mais sans entrer du tout dans une polémique, car en ce sens, je crois, vous avez raison, j'essaye de montrer qu'il n'y a pas de régime parfait et que chaque régime a ses forces et ses faiblesses. Mais quand je vais de l'autre côté de l'Europe, et surtout lorsque je passe la frontière soviétique, j'ai l'impression d'un monde qui, au point de vue culture, au point de vue style de vie, est foncièrement étranger. Je ne dirais pas la même chose de la Pologne.
Oui.
La Pologne est restée d'une certaine manière une société occidentale.
Mais c'est pour une raison d'histoire.
C'est une raison de culture historique, enfin. Mais le système soviétique tel que je l'ai vécu, mais il y a plusieurs années que je n'y suis pas allé, l'air soviétique que l'on respire, c'est véritablement quelque chose qui pèse sur vous, dont on a le sentiment qu'il ne laisse pas à l'individu le genre de liberté, au singulier ou au pluriel, à quoi nous sommes habitués.
Non, mais c'est d'évidence, je ne vais pas nier la différence de fait. Mais ce qui m'intéresse surtout, si vous voulez, c'est le sens de la dérivée de cette courbe. C'est-à-dire que les ressorts de la technostructure amènent probablement les sociétés au-delà des idéologies auxquelles elles adhèrent volontiers, parce que c'est commode, ce sont des croyances, mais derrière ces croyances plus ou moins fallacieuses, il y a des mécanismes qui se déroulent.
Alors je pense... Est-ce que vous me permettez de dire un mot? Volontiers, je disais à mes étudiants, aujourd'hui, nous regardons les cités grecques, et nous sommes tentés de dire toutes les cités grecques étaient du même type. Cela dit, Aristote analysait de manière objective et rigoureuse les différents genres de régimes politiques qui faisaient la distinction de ces cités. Et entre, disons, l'atmosphère de Sparte et l'atmosphère d'Athènes, il y avait probablement une différence qui, à l'époque, était ressentie comme essentielle par les Grecs, parce que leurs traits communs leur étaient, pour ainsi dire, évidents. Et ce qu'ils percevaient avec distinction, c'était les différences. De la même façon, entre une société aussi industrialisée que celle de l'Union soviétique et celle des États-Unis, il y a aujourd'hui des traits communs que ceux qui ne vivent ni dans l'une ni dans l'autre perçoivent aisément. Cependant que quiconque vit dans une des deux sociétés, tenant pour acquis les mécanismes communs, perçoit avec netteté ce qui oppose le style, disons, de la politique ou de la radio ou de la télévision en Union soviétique d'un côté, aux États-Unis de l'autre. En d'autres termes, les sociétés se battent toujours sur leurs différences spécifiques. Est-ce qu'elles ont en commun et lesquelles, une fois pour toutes, pour acquis ?
Vous voyez, je me permets de dire que votre discours sur vous-même me paraît plus infidèle que le mien. Si je vous dis combien je suis intéressé par le fait que, bien entendu, vous prenez parti, c'est visible, et vos préférences sont visibles pour un des systèmes, mais vous avez... En critiquant l'idéologie, mettons, soviétique et marxiste, vous laissez entendre constamment, et même vous dites avec précision, que les mêmes erreurs idéologiques se commettent dans l'autre système. Alors, disons que, peu m'importe que vous en préfériez un, ce qui m'importe, c'est que la critique de l'idéologie, la critique de l'utopie, l'écart entre ce qu'on pense des choses, des représentations qu'on en a, et les mécanismes qui les font être vraiment ce qu'elles sont, c'est cela chez vous qui m'intéresse le plus.
Oui, ben je vous accorde, il y a chez moi deux hommes. Il y en a un qui dit « Aucune société ne peut se justifier par ses propres idées, car toutes les sociétés trahissent en fait leur idéal. » Et il y a un deuxième homme qui ajoute « Le degré de la trahison varie de société à société. » Alors, vous prenez le premier homme, celui que... j'étais essentiellement dans le cours sur les 1800 sur les sociétés industrielles, parce que ce cours était le premier que je professais à la Sorbonne. J'étais tout nouveau à la Sorbonne et j'étais accueilli par la suspicion, pour parler avec modération, par un grand nombre d'étudiants. Et j'ai fait une surenchère d'objectivité, c'est-à-dire... que j'ai été probablement injuste pour les sociétés que je préfère.
Ah.
Oui, parce que étant amené à désarmer l'hostilité supposée d'une partie de mon auditoire, je poussais le scrupule d'objectivité à aller probablement au-delà du point exact.
Oui,
du point
c'est en quoi vous essayez d'emprunter une pédagogie efficace, non pas en gauchissant votre propos, mais en le rendant acceptable.
L'opinion d'un ancien élève de Raymond Aron, Michel Mangaudin.
1800 sur la société industrielle, non, je pense que ce qui est dépassé, si tu veux, c'est certains chiffres qui citent certaines affirmations, par exemple, et sur le monde occidental et sur le système soviétique qui ont pu évoluer depuis. Néanmoins, il me semble que les données générales, ça reste. Notamment dans la mesure où Raymond Aron essaye dans ce bouquin et dans les suivants d'ailleurs de dépasser un petit peu l'antagonisme classique entre monde socialiste et monde capitaliste.
La convergence, tu veux dire ?
Non, mais enfin il veut montrer que la grande opposition, si tu veux, du monde actuel, c'est pas l'opposition entre deux systèmes politiques, mais bien plutôt deux degrés de développement économique. C'est-à-dire, au fond, les pays nantis et les pays qui ne le sont pas. Et pour lui, les pays nantis, c'est la société industrielle, qu'elle soit américaine ou soviétique. Alors ça me semble tout à fait valable.
Mais tu penses que c'est juste ?
Ah, je pense que c'est juste, oui. À partir de constatations simples même, par exemple, en se basant sur le produit national brut ou le revenu même par tête d'habitant, qui est quand même plus proche entre l'Union soviétique et l'URSS, qui peut l'être entre l'URSS et peut-être, je ne sais pas quel est le niveau de revenu au Vietnam du Nord, mais prenons le Vietnam du Nord, qui est un pays assez sous-développé, par exemple.
Retour au studio, Pierre Schaeffer.
J'aimerais vous entendre parler de vos rapports avec la jeunesse, avec les étudiants.
Mai 1968, révolution introuvable et ma transformation en mandarin, disons entre guillemets. Comme vous le savez, pendant les 10 années qui avaient précédé l'explosion de 1968, j'avais été un critique exceptionnellement sévère de la vieille université française.
C'est vrai.
Je considérais que l'organisation de la Sorbonne était un perpétuel défi au bon sens. J'étais hostile à l'agrégation. J'étais regardé avec doute, scepticisme, sinon animosité, par la majorité de mes collègues conservateurs de la vieille université. Et puis, d'un coup, au cours des journées de mai 1968, je me suis transformé aux yeux des autres en un défenseur d'un système que je détestais. Et alors, les gens ont dit, il aime tellement être contre qu'en toutes circonstances, il trouve le moyen de s'opposer même à ce qui devrait correspondre à ses préférences. Je ne crois pas que ma réaction de mai 68 ait été de ce type. D'abord, ma réaction était beaucoup plus à l'égard de mes collègues qu'à l'égard des étudiants. Ce que je reprochais à un bon nombre de mes collègues, c'était de courir après ces jeunes révolutionnaires, après avoir refusé pendant 20 ans toutes les réformes raisonnables qu'on leur demandait. Ce que je déteste en tant que citoyen, c'est la capitulation morale. Et ce qui m'était odieux dans les journées de mai 68, c'était la capitulation morale des élites ou des prétendues élites devant un mouvement de jeunes gens qui avait des aspects sympathiques et des aspects un peu ridicules, mais qui, en tout état de cause, ne devait pas provoquer cette espèce d'abdication.
Comment vous l'expliquez, cette abdication ?
En ce qui concerne l'université, je dirais qu'un grand nombre de mes collègues de l'université, au fond d'eux-mêmes, ne croyaient plus à la vieille université. Et alors, lorsque un petit vent, je ne dirais pas de tempête, mais un vent un petit peu fort, a fait crouler l'édifice, ils ont découvert qu'au fond, ils s'y sentaient mal. De plus, il faut ajouter une chose, à l'excuse de tous les professeurs, rien n'est pénible pour un enseignant que de sentir l'hostilité des étudiants. La tendance de tous les professeurs... à être démagogue est quelque chose qui s'explique. Il faut une certaine confiance en soi ou il faut un mauvais caractère, disons, il faut mon mauvais caractère pour ne pas avoir peur de l'hostilité des étudiants. N'oubliez pas de plus que j'avais démontré avant les événements de mai 68 que je n'acceptais plus la vieille université puisque j'avais quitté la Sorbonne volontairement pour aller à l'école pratique des hautes études. Et puis alors, il y a eu une autre chose. Je n'étais pas gaulliste, je ne le suis pas devenu en mai 68, mais j'aurais eu honte, en tant que Français, si une bande de jeunes gens avait renversé le général de Gaulle et le régime politique français à partir de rien, sans programme, et dans une certaine mesure, juste pour s'amuser, dans une atmosphère de fête.
Le même ancien élève de Raymond Aron, Michel Montgaudin, suite.
Je pense que son attitude est logique par rapport à sa pensée, et je crois que pour bien comprendre son attitude, il faut se reporter au troisième tome de la fameuse trilogie, qui est « Démocratie et totalitarisme ». À un moment, à la fin du bouquin, je crois, il insiste sur l'idée suivante, qu'il ne faut jamais détruire ce qu'il appelle le fil de la légalité, je crois.
Vous parlez des événements de mai 68.
Non, dans ce bouquin-là, il ne parlait pas des événements de mai 68, il parlait, je crois, du 13 mai 1958. Raymond Aron a été adversaire du 13 mai 1958, dans la mesure où il considérait que la légalité avait été rompue, et malgré toutes les critiques qu'il faisait du régime de la 4e République, il pensait qu'il eût été préférable de passer à la 5e, si tu veux, par des voies plus légales. Bon. Alors donc, il y a une apparente contradiction entre cette position en 58 qui est anti-De Gaulle et sa position en 68 qui est assez pro-gouvernementale, en fond. Et Raymond Aron s'en est expliqué, et c'est sous sa responsabilité, si tu veux, que je réponds, parce que je lui avais moi-même posé la question. Il prétend qu'au fond, il n'y a absolument pas de contradiction, parce que même problème en 68, il y avait un problème de légalité qui se posait, et il pensait que de toute façon, le gouvernement ne devait pas sauter par une révolution ou une émeute ou autre chose. S'il devait sauter, c'était à l'issue d'élections, par exemple, mais pas du tout par d'autres moyens.
Retour au même studio, Pierre Schaeffer et Raymond Aron, réunis par Claude Gleyman. Pierre Schaeffer.
Est-ce que vous ne croyez pas, pour reprendre votre propre appareil critique, qu'il faudrait distinguer là ce que vous distinguez après Tocqueville, la sphère de la société civile, et puis la sphère de l'État politique.
Oui.
Ce qui m'a beaucoup frappé dans les commentaires innombrables sur les événements de mai, c'est la perpétuelle confusion entre les deux, et il est assez facile, et vous l'avez fait, de démontrer que ce n'était pas une révolution, c'était introuvable, avez-vous dit, mais je prends au sérieux la crise de la société civile dont elle est le symptôme. dans laquelle l'université, naturellement, joue un rôle de premier ordre, mais ce n'est pas que l'université. L'université est à la fois le lieu de cette ségrégation des étudiants, donc c'est là toute la mise en cause que je ferai volontiers du parquage des étudiants, et je mettrai en cause, bien au-delà de la pédagogie et des habitudes universitaires, le contenu de l'université, et même son inspiration. D'ailleurs, c'est un thème que je proposerai peut-être tout à l'heure, le thème de la rationalité.
Oui.
Pour moi, est un thème central.
Distinguons, il y a eu dans les événements de mai, il y a eu trois phases qui correspondent au fond à trois des aspects ou à trois des enjeux de ces semaines extraordinaires. Il y a eu la première phase qui a été la révolte étudiante déclenchée de manière demi-accidentelle par les incidents de Nanterre, transférés à la Sorbonne, etc.
Oui, c'est l'incident.
Une fausse manœuvre du gouvernement, l'ouverture de la Sorbonne. Les étudiants envahissent la Sorbonne et remettent en question le monde, l'univers, le ciel, la terre, etc. Bien. Deuxième phase, des grèves sauvages déclenchées par quelques éléments de la classe ouvrière avancée, pas du tout sur l'ordre du Parti communiste, même contre les désirs du Parti communiste. Puis, le Parti communiste, pour récupérer le mouvement ouvrier, déclenche des grèves immenses et quasi générales, qui ne sont pas du tout des grèves révolutionnaires dans l'intention ou dans la pensée des dirigeants communistes, mais qui sont des grèves de récupération, pour retrouver le contrôle de leurs troupes. Et puis après 15 jours de ces grèves qui paralysent progressivement la vie du pays, il y a l'affolement d'une partie de la classe politique, surtout à Paris, et la mise en question du régime. Est-ce que le général de Gaulle va démissionner? Est-ce que M. Pompidou va démissionner? Et tout cela se termine en 5 minutes par le discours du général de Gaulle le jeudi 30 mai. Alors,
permettrait d'ajouter quand même des épisodes ultérieurs et moins visibles, parce que ça a été fait en 5 minutes peut-être, mais il en est résulté des 4e et des 5e phases, c'est-à-dire une rétroaction du mouvement, son contraire, et probablement d'une part un durcissement dans les phénomènes qui affectent non pas l'État politique qui a eu sa petite crise vite arrangée, mais la société civile, la société des citoyens, qui est profondément perturbée.
En ce qui concerne la société civile, il y a eu, pendant ces semaines, surtout dans la deuxième et dans la troisième phase, une mise en question alors de l'ensemble de l'organisation de notre société. Oui. C'est-à-dire, il y a eu la mise en question de l'organisation rationalisée, de l'isolement des individus dans les organisations de masse. Il y a eu la protestation contre la non-participation des gens à ce qui les regarde. Vous connaissez le formule de Valéry. Enfin, la politique a été pendant longtemps l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Voilà, oui. Elle est devenue l'art de les interroger sur ce qu'ils ignorent. Mais enfin, en mai, les gens ont demandé la permission de s'occuper de ce qui les regardait.
On saurait mieux dire.
Ah oui, ben, tu permets. Alors moi, je vais vous dire une chose. Ça sert à quoi vos manifestations? Eh bien, les dernières qu'il y a eu à Paris, ça a servi à quoi, en somme?
Lesquelles dernières? Les dernières qu'il y a eu dans la rue, les dernières d'étudiants, n'ont servi à rien.
Bon, alors là, je suis heureux de vous l'entendre dire. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'avait promis une augmentation, je l'attends encore. Mais, par contre, le kilo de sucre, il a augmenté. Le litre d'huile, il a augmenté.
C'est le gouvernement qui augmente le prix, ça. Alors.
Mais le gouvernement, si vous ne l'aviez pas déclenché, la merde. Eh bien, le gouvernement, il n'aurait pas mis le pâti.
Ce sont les patrons. Parce qu'il y a eu 10% d'augmentation, ce sont les patrons qui, en augmentant les prix, essayent de récupérer ce qu'ils ont perdu par la grève.
Mais voilà, non, ça n'a rien à voir avec c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que à 95%, écoutez-moi bien, je ne m'estrasse pas pour rien, à 95%, ici, en Provence, tous les patrons, ils ont payé intégralement les grévistes. Et par-dessus le marché, monsieur le député maire du Faux, ex-député maire du Faux, malheureusement, il a dit 6 000 francs pour les gars qui font la grève. Vous l'avez fait, vous, ça, à Paris?
De quoi, moi?
Vous en avez donné, vous, de l'argent pour les grévistes, oui. Pour que le coût de la vie baisse? C'est vous qui l'avez fait augmenter avec vos conneries de mutants.
Le prix de la vie n'augmente pas en faisant des barricades.
Vous croyez que votre...
Mais
les barricades, mon beau, moi je les ai vécues, les barricades. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
Raymond Aron.
Alors, ce que l'on a appelé crise de civilisation, ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième phase, mais les questions qui ont été posées au cours des trois phases. Qui ont été posées par les étudiants dans un style romantique, qui ont été posées par les ouvriers en réaction contre une certaine forme d'organisation de la production, et le mouvement continue, et qui ont été posées par les cadres, dans la mesure où les cadres ont protesté contre une hiérarchie stricte, contre ou le paternalisme ou l'autoritarisme. C'est-à-dire que toute l'organisation de la société civile a été discutée au cours de ces semaines.
Oui, alors est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, premièrement, un thème là, a été brièvement, brutalement ou enfantinement et naïvement joué, mais ce thème, personne ne l'oublie, que les réponses qui sont données depuis les années suivantes sont des réponses à côté de la question, de toute façon, d'ailleurs, aussi bien à droite comme à gauche. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que les étudiants, si romantiques qu'ils soient, ont donné une sacrée leçon à leurs professeurs ? Une leçon globale, une leçon d'un imaginaire qui s'opposait à un faux réalisme.
Oui, oui et non. Ce que je crois, c'est que les étudiants ont posé un certain nombre de vraies questions. Il faut ajouter d'ailleurs que ces questions, ils les avaient empruntées à un certain nombre de maîtres de pensée, oui. À un certain nombre d'anciens. Je vous accorde qu'aucune réponse satisfaisante n'a été donnée à la plupart de ces questions. Mais c'est aussi que, dans une large mesure, ce sont des questions qui ne comportent pas de réponse simple. Vous protestez contre l'organisation rationnelle de la production et contre l'appauvrissement de la vie de travail qui en résulte pour des milliers ou des millions d'individus, vous avez raison. Mais ce style d'organisation de la vie de travail est aussi la condition du niveau de vie élevé qui correspond encore aux aspirations de la masse de la population.
Attendez, j'aimerais ne pas vous suivre dans cette direction parce que vous l'avez dit vous-même, n'est-ce pas, la société de consommation n'est pas un mal en soi, grand Dieu. Mais vous avez dit quelque part, je ne sais plus dans lequel ouvrage, qu'il y avait un prix à payer, n'est-ce pas ? C'est une idée que vous avez bien raison de mettre en avant, qui est banale, mais qui n'est pas si partagée, n'est-ce pas ? Personne ne veut payer le prix de ça. Mais quand je parle de la rationalité, je ne parle pas de la rationalité de la production. Je suis même pas si sûr que les conditions de travail actuelles des grandes organisations soient si néfastes. Je crois qu'elles sont mal utilisées. Mais je crois que les hommes peuvent ne pas y être si malheureux. Mais ils sont malheureux d'autre chose.
Et pourquoi alors ?
Je crois que l'insistance qu'on met à vouloir trouver le bonheur, la dignité, enfin tout ce que les hommes cherchent, dans ce cadre-là, est une insistance aveugle. Je crois que le problème, il est là aussi, car il y a un minimum naturellement de ce que vous appelez les libertés réelles, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il faut ces libertés réelles et que le travail, même avec les machines, est facilité par les machines, peut être abrutissant. Mais il y a une autre chose. Et quand je parle de rationalité et d'irrationalité, et quand je pense à cette explosion, ce refus général des étudiants d'accepter la société que leur présentaient leurs professeurs, même pour la plupart, n'est-ce pas, de gauche, il ne faut pas l'oublier. Donc, les étudiants ne pouvaient faire que du surgauchisme. Bon, oui. Et ceci s'est terminé en autre boudin, dans des groupuscules qui continuent à rêver ou à vouloir agir. Et puis, le reste, c'est rien du tout. Alors, je pense que là, il y a une carence complète de la société actuelle, et notamment des gens qui estiment avoir une responsabilité de penser. Et c'est là-dessus que j'aimerais, si vous voulez, voir une réponse.
Je me risquerais à vous répondre que la mise en question globale de notre société a été le fait d'une minorité d'étudiants. La masse des étudiants a suivi, et encore, au cours des journées lyriques, mais sorti de ce phénomène étonnant, enfin de l'illusion lyrique révolutionnaire, que j'avais vu décrire par des auteurs à propos des événements du 19e siècle, que j'ai retrouvé dans les journées de mai, en dehors de ces phases exceptionnelles de théâtre, de croyance à un monde nouveau, la masse des étudiants n'est pas gauchiste, et la masse des étudiants remet moins en question l'ensemble de la société qu'elle n'y cherche une place. Cela dit, peu importe si le nombre de ceux qui remettent en question la société est grand ou petit, au bout du compte, les grandes questions sont toujours posées par des minorités, par conséquent je vous accorde que l'essentiel est les questions que nous ont posées un certain nombre de ces jeunes gens. Cela dit, je ne suis pas sûr, vous direz que c'est là mon pessimisme, que par essence, ces questions comportent des réponses. Bien, il y a les questions posées à propos de l'organisation du travail. Eh bien, ce que le travail en usine ou que le travail en administration peut avoir d'aboutissant, il ne peut être atténué que par des efforts et non pas par une solution globale. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas en nationalisant tous les moyens de production qu'on transformera d'un coup les conditions de travail. D'autre part, il y a le fait de la non-participation de la majorité des hommes aux décisions qui engagent leur destin. Il est extraordinairement difficile, dans des administrations vastes, d'assurer une participation authentique du grand nombre aux décisions. Et il n'est même pas démontré que la masse de ceux qui sont intégrés dans ces organisations souhaite réellement participer aux décisions de manière constante. Il y a enfin ce qui est peut-être la question dernière, comment vivre de manière satisfaisante dans une société dont les moyens de production et le niveau de vie progressent de manière régulière, mais qui ne croit plus ni à Dieu ni au paradis sur terre. C'est-à-dire qui n'a plus une foi absolue dans une certaine idéologie politique, qui dans une large mesure a perdu la foi au transcendant, et qui par conséquent est ramené, disons, à ce cas inévitablement d'insatisfaisant et de prosaïque, une vie sociale, une vie historique sans transcendance, ni transcendance vers l'avenir, ni transcendance vers l'au-delà.
Enquête éclair dans un lycée parisien. Deux élèves de terminale.
Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un avait parlé de la multiplication des sectes aux États-Unis, et je disais que ceci s'expliquait par le fait que l'homme, du point de vue spirituel, se sentait complètement isolé au milieu d'une société de plus en plus matérialiste. Ouais. Et que cette multiplication, justement, ça prouvait en quelque sorte que le matériel ne peut pas suffire à l'être humain, qu'il a besoin de quelque chose d'autre sur un autre plan. Et que pour trouver justement cette quelque chose spirituel, il va même dans des sectes complètement absurdes, qui à l'analyse peuvent paraître complètement absurdes, mais qui apportent justement cette tranquillité du point de vue spirituel.
En plus, il y a une recrudescence de ce qu'on pourrait appeler le mysticisme avec tous les phénomènes liés au Christ et à tout ce qui s'ensuit, toute la publicité qu'on fait autour de ça. Aux États-Unis, j'ai vu le commerce qu'on pouvait faire avec ça. Il y a des jeunes qui se baladent un peu partout avec des croix. D'ailleurs, ça n'a plus aucun sens. Disons que ça a un sens parce que c'est la preuve qu'il y a un certain malaise.
Dialogue, Raymond Aron, Pierre Schaeffer, suite. Pierre Schaeffer.
Je voudrais, non pas vous mettre au pied du mur, mais je voudrais avoir de vous une réponse claire à aux questions que je vais vous poser. Dans vos ouvrages, une des critiques les plus utiles, me semble-t-il, à tout un chacun, c'est quand vous reprenez ces vieux primitifs textes de Marx, où Marx lui-même me semble se démarrer dans une contradiction non pas dialectique, mais absolument formelle et décisive, dans sa critique de la religion, puisque la religion est donc créée par l'homme, selon Marx,
oui.
Et ça je veux bien, moi je suis tout à fait d'accord, et quelques lignes, quelques pages ou quelques années plus loin, n'est-ce pas, Marx, très, pour ainsi dire, spontanément, déifie l'homme, car c'est presque en toutes lettres.
Enfin, il dit que l'homme sera pour l'homme l'être suprême.
Bien, on ne peut pas mieux dire, c'est donc clair. Donc, si vous voulez, il y a de la part de Marx, qui en était peut-être inconscient, mais ça a été vérifié depuis, la création d'une religion de l'homme. On ne peut pas le nier. Bien. Alors, et c'est ce qui explique, vous l'avez souvent remarqué, beaucoup d'autres avec vous, l'extraordinaire ressemblance, cousinage de communisme et christianisme, comportement communiste et comportement de chrétien ou de catholique en tant que fidèle. Je ne le dis pas du tout en mauvaise part.
Si vous voulez une parenthèse, Toynbee dit toujours que le marxisme est une hérésie chrétienne.
Oui, et Toynbee dit aussi que pour une fois on a donné du pain, un pain crayeux, vous faites cette citation très émouvante, un pain rempli de cailloux, mais enfin du pain que ne donnent pas les capitalistes, n'est-ce pas?
Bon.
Ma question est celle-ci. Dans l'ensemble des deux grandes tendances, qu'elles soient, disons, capitalistes ou communistes, il y a une interrogation renouvelée par la demande étudiante de trouver une solution à l'homme au niveau de cette société. Et dans les propos que vous venez de tenir sur la En fait, les questions d'améliorer non seulement la vie de travail des hommes, mais leur participation au travail, le fait qu'ils y soient profondément associés. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve une espèce d'hérésie générale de l'homme qui s'en sort au niveau de la société même, au niveau des organisations même. Alors, ma question est celle-ci. Ouais. Je ne nie pas, n'est-ce pas, du tout. Je m'efforce, pour ma modeste part, dans mon milieu de travail, d'organiser ce qui pourrait être pour ce groupe de travailleurs, petit ou grand, la participation la plus intense, la plus fervente, la plus digne, la plus intelligente, la plus active. Bon. Et je ne connais que des échecs. Bon. Et je m'interroge sur la source de ces échecs. On est devant un premier problème qui est, disons, de technologie humaine.
Oui.
Il y a derrière tout ça un tel problème d'irrationalité de l'homme et de la société. Et un problème, disons, métaphysique, c'est la référence à un tiers que les uns appelaient Dieu autrefois, que les hommes appellent volontiers le parti en déguisant la religiosité. Donc, si vous voulez, un problème qu'on pourrait appeler religieux en débaptisant ce mot.
Oui, seulement, voici, je ne suis pas croyant au sens ordinaire du terme. Et d'autre part, je n'aime pas, ou même, c'est une expression faible, je déteste les athées militants. C'est-à-dire, je déteste non pas seulement M. Homais, mais je déteste ceux qui ne reconnaissent pas la dimension religieuse comme une dimension de l'existence humaine. C'est peut-être un peu contradictoire, mais...
C'est heureusement contradictoire.
C'est peut-être heureusement contradictoire. Disons que je reconnais le besoin religieux de l'homme, ou la dimension religieuse comme une dimension fondamentale de l'homme à titre d'interrogation, même si la réponse n'est pas possible. Alors aujourd'hui, eh bien, d'une certaine manière, j'ai été opposé à ce que j'ai baptisé les religions séculières, parce que la religion séculière, que ce soit l'une ou l'autre, j'ai employé cette expression pendant la guerre, à la fois pour désigner le fascisme et le communisme, quelle que soit la différence entre les deux. La religion séculière me paraît une profanation de l'esprit religieux. Parce que toute religion séculière, c'est-à-dire toute religion politique, consiste à transfigurer en valeur absolue une certaine organisation de la société. Or, l'essence de la religion, pour moi, c'est précisément de dévaloriser l'importance de la société en tant que telle et de la hiérarchie sociale en tant que telle. Car finalement, les religions séculières consistent à accorder aux dirigeants du parti, à ceux qui gouvernent la société, non seulement le pouvoir qu'ils possèdent, non seulement l'autorité à quoi ils prétendent, mais en plus, la dignité d'interprète d'une vérité suprême. Or...
Vous parlez des représentants des églises.
Voilà. Mais dès que vous avez une idéologie au pouvoir, vous avez le mélange du pape et de l'empereur.
Oui, moi, je vous dirais que j'aimerais bien que les églises ne fussent pas séculières, mais que ça me paraît une nouvelle utopie, n'est-ce pas?
Ah ben,
une église est toujours séculière, oui, mais plus ou moins organisée.
Attention, dans le monde actuel, le catholicisme et toutes les églises des religions traditionnelles ont perdu le pouvoir temporel. Et une des originalités de l'Occident, là-dessus tous les historiens sont d'accord, ça a été le perpétuel dialogue du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Et probablement qu'une des conditions fondamentales de l'épanouissement de la civilisation occidentale, c'est précisément le dialogue du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel.
Moi, je déteste ce doublet, n'est-ce pas? Pouvoir temporel et pouvoir spirituel. C'est une distribution des tâches vraiment un peu trop confortable.
Pourquoi?
Eh bien parce que je pense que l'État a un pouvoir spirituel et que l'Église a un pouvoir temporel. Je fais ici allusion à deux exemples très précis et d'une extrême banalité. Quand je dis que l'Église a un pouvoir temporel, c'est par exemple que lorsque j'étais jeune catholique pratiquant, n'est-ce pas, j'étais enfermé dans un système où, par exemple, la notion d'avortement était non seulement réprouvée, mais absolument infaisable, pour des raisons d'une telle puissance morale qu'elles avaient leur effet physique. Bon. J'en dirai pas plus, car qu'il s'agisse, il y a des cas limites, n'est-ce pas, où ces choses sont intolérables. Bon, de même, si l'État me demande, ou la nation, ou la patrie, comme vous voulez, d'aller non seulement me faire tuer, ce qui, à la rigueur, est acceptable, mais tuer le voisin, c'est un pouvoir spirituel. Donc,
non.
Ah, j'estime moi que c'est un pouvoir spirituel, c'est une valeur.
Non. Parce que alors là, si vous voulez, je reviens aux origines du christianisme. Rendez à César ce qui est à César. Or, l'essence de César, c'est le pouvoir militaire. C'est le pouvoir de mobiliser les citoyens pour la défense de la collectivité. Et si l'on mobilise les citoyens pour la défense de la collectivité, on les mobilise éventuellement pour tuer les citoyens du pays voisin.
C'est donc une décision morale.
Ce n'est pas une décision morale, car le...
Que faites-vous des objecteurs de conscience?
Les objecteurs de conscience, oui.
Ils prennent l'État au sérieux.
Vous me faites plaisir, je vais vous indiquer un détail. Le premier article que j'ai publié dans ma vie était consacré à l'objection de conscience. Je l'ai publié dans la revue de Métaphysique et Morale quand j'étais un tout jeune homme.
Ils ne le font pas parce qu'ils risquent de tuer une ou deux personnes. Ils le font évidemment pour des raisons d'une portée générale.
Oui, seulement ce que je dis, c'est que les vrais objecteurs de conscience sont ceux qui refusent la violence en tant que telle. Or, la majorité de ceux qui se présentent comme des objecteurs de conscience sont en réalité des révolutionnaires. Ils sont prêts à la violence au service de leur cause.
Non, mais ça, c'est une interprétation sur telle ou telle
sorte.
Vous
êtes pour ou contre les objecteurs dans votre article ?
Mon article sur l'objection de conscience n'était ni pour ni contre eux. Mon article était, si vous êtes prêt à employer la violence au service de vos convictions, vous n'êtes pas un objecteur de conscience. Si vous êtes un révolutionnaire, vous n'êtes pas un objecteur de conscience. Si vous êtes un vrai objecteur de conscience, c'est-à-dire si vous refusez de manière absolue la violence, je vous respecte profondément et je souhaite et je demande que l'État vous donne la possibilité de rester fidèle à votre obligation intérieure, c'est-à-dire vous permettre de servir la société sans tuer personne.
Il y a un troisième cas qui échappe, n'est-ce pas ? On peut très bien être objecteur de conscience dans tel contexte historique, politique, parce que l'État, le pays qu'on sert à ce moment-là, commet de mauvaises actions par la violence. Alors, bon. Moi, je trouve qu'il est très mauvais de condamner la violence. Violence fait partie d'une philosophie réaliste de l'existence.
Bien entendu. Seulement, si vous refusez d'obéir à votre État... parce qu'il livre une guerre injuste, mettons l'Allemand qui refuse d'obéir au Troisième Reich. Je le respecte profondément, toute ma sympathie va à lui, mais je trouve normal que l'État, quel qu'il soit, n'accepte pas que chaque citoyen se donne le droit de juger si la guerre que mène son État lui plaît ou ne lui plaît pas. L'essence de la discipline nationale, surtout en démocratie, c'est que ceux qui ont été élus pour prendre les décisions qui engagent la collectivité, doivent obtenir la discipline du pays.
Vous auriez été contre Willy Brandt, alors ?
Absolument pas, parce que je considérais qu'on pouvait être un citoyen de la République de Weimar et refuser d'être un citoyen du Troisième Reich. Il y a des moments où un changement de régime représente une telle rupture avec l'essence de la communauté à laquelle on appartenait que l'on peut, en toute logique, être pour l'obéissance à son État et refuser l'obéissance à un État qui vous semble trahir l'État auquel on a juré sa foi.
Oui, je trouve là que vous faites un curieux télescopage entre, puisque vous avez pris l'exemple du Troisième Reich, un État donc qui garde un certain pouvoir et droit au pouvoir, mais en même temps qui se conduit mal. Mais nous avons un petit peu dérivé. Revenons au sujet, ça veut bien dire que l'État... use de pouvoir, sinon directement spirituel, du maître qui met son citoyen, j'allais dire son fidèle, dans une situation absolument de décision spirituelle, de décision de conscience. Alors, non, ce que je cherche à dire, c'est surtout à dégager ces deux grands horizons d'un travail possible, parce que je m'interroge surtout sur ce qu'on peut faire, étant donné le faible rendement de tous nos discours, de tous nos écrits, de toutes nos générosités, enfin, chaque fois que nous essayons d'en inspirer. Je pense que c'est une des contradictions les plus subtiles, en même temps que des plus énormes du monde contemporain, c'est de croire encore à l'action, aux responsabilités individuelles ou collectives, et en même temps d'être habité de l'idéologie contraire, et de constater que, quoi que nous fassions à l'intérieur des structures ou des technostructures, elles semblent nous mener, et il nous reste des discours d'interprétation.
Alors il y a deux idées que je vais vous suggérer, ou plutôt une anecdote et une idée. Vous vous souvenez peut-être que Lord Keynes qui est l'homme dont la pensée a exercé le plus d'influence sur l'histoire économique de l'Europe depuis une trentaine d'années, a écrit un jour que les économistes, les théoriciens, les professeurs se trompaient entièrement. Ils avaient l'impression de n'avoir aucune influence, ils en avaient en réalité une considérable, puisque les hommes d'action, c'est-à-dire les hommes d'affaires ou les hommes politiques, appliquaient les idées économiques que leurs professeurs leur avaient données dans leur jeunesse. L'ennui, c'est qu'ils avaient une influence à 20 ans ou 25 ans d'écart, à une génération près, et que par conséquent, l'efficacité n'était pas grande. L'autre idée que je veux vous suggérer, c'est l'idée suivante que je crois avoir exprimée plus en détail dans les désillusions du progrès. La raison pour laquelle nous avons le sentiment d'une certaine impuissance face au déroulement des sociétés tient à l'accroissement démesuré de notre capacité de manipulation dans le détail et à notre totale incapacité de maîtriser l'ensemble. C'est-à-dire, n'importe quel chef d'entreprise ou n'importe quel ingénieur a une capacité de maîtriser soit la matière, soit son organisation, qui est sans commune mesure avec la capacité de maîtrise du passé. Et simultanément, nous avons vécu à l'époque de Hitler, à l'époque de Staline, des procès en sorcellerie, c'est-à-dire jamais il n'y a eu une telle combinaison entre des rationalités partielles et l'espèce d'irrationalité globale du mouvement historique. Et c'est, me semble-t-il, cette contradiction qui nous donne un sentiment d'impuissance.
Je pense que c'est peut-être aussi une solution de facilité de dire « on peut rien faire ».
En pleine discussion, des élèves de terminale d'un lycée de Paris.
De se droguer ou tout ce genre de choses.
Mais tu oublies une troisième éventualité, c'est celle qui consiste à s'habituer à ce malaise, parce qu'il n'est pas terrible. La quasi-totalité des êtres qui vivent sur la Terre, eh bien, ils s'adaptent très bien à cette impuissance, puis ils vivent très bien.
Mais je pense qu'il faut voir surtout pourquoi les gens sont comme ça. Parce que s'ils sont comme ça, c'est bien qu'on les a forcés à être comme ça pour que justement ils ne se rendent compte de rien en les enfermant en eux-mêmes, et ils ne se rendent même plus compte à la fin. Et dans le fond, bon, en se disant, bon, ben, on s'y habitue, mais dans le fond, c'est ce que le gouvernement cherche, ce que la société actuelle leur impose, c'est tout, c'est rien d'autre.
Bon, effectivement, bon, si on continue comme ça, si on laisse les gouvernements faire évoluer de la manière où ils évoluent actuellement, on aboutira à des états dictatoriaux, que ce soit une dictature du peuple ou une dictature... Ou alors simplement, on sera soumis à l'évolution économique qui nous contraindra absolument. Donc je pense que les hommes doivent se reprendre eux-mêmes et se dégager de tout état.
C'est exactement ça, c'est détruire toutes les structures. Seulement voilà, t'as rien d'autre à proposer. Vivre vraiment dans le néant. Or, vivre dans le néant, c'est impossible. Il faut vivre dans des structures. Il faut pouvoir diriger ou être dirigé.
Je ne veux pas détruire les structures. Je veux simplement que les structures soient le plus près possible de l'homme.
Je dirais que si on voulait modeler les structures pour qu'elles s'accordent avec chaque individu, il faudrait autant de structures que d'individus. Or, c'est pas possible. Donc, la seule solution qui existe, c'est de modeler la plus grande partie des individus à une certaine structure, ou alors si tu préfères, de modeler une structure.
Si lui c'est l'anarchie, toi c'est fasciste.
On sera tous en petit moule, quoi. Il faudra au maximum faire coller tout le monde dans ce grand moule, c'est tout. Qu'il y en ait le moins possible sur les côtés, ça va être une sorte de fonction de Gauss, hein. Sur les côtés, il faut qu'il n'y ait rien du tout et tout au milieu.
Vous êtes à l'écoute de Dialogue, une émission généralement publique de Roger Pilaudin, enregistrée chaque mercredi à 21h en présence du public au studio 105 de la Maison de l'ORTF. À l'exception de ce dialogue qui réunit aujourd'hui Pierre Schaeffer et Raymond Aron. Pierre Schaeffer.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que l'accès à la vraie pensée, à un autre niveau de pensée, à un autre niveau d'expérience, est le seul moyen de changer, alors très lentement, et à travers je ne sais quel cheminement tortueux et lent, les choses. Je veux dire par là, puisque vous venez de prononcer les mots de rationalité et d'irrationalité, je pense pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, que l'erreur occidentale, fondamentale, c'est la croyance au rationnel. C'est la référence au rationnel, l'irrationnel étant évacué, traité marginalement, l'Homo sapiens, l'Homo faber et l'Homo sapiens bras dessus bras dessous, n'est-ce pas, qui construisent une société et des commodités et des moyens de production si visiblement rationnels qu'on leur demande aussi de satisfaire leur auteur.
Oui.
Bon. Tout en reconnaissant évidemment un succès prodigieux du rationnel, je pense que l'Occident a simplement oublié le reste. Il oublie ce qu'il ne sait pas, il ne veut pas admettre que l'homme est profondément irrationnel, que l'homme est quasiment fou, les sociétés folles, qu'elles l'ont montré, et par conséquent, c'est comme dans une famille où on se cache les turpitudes du père.
Oui. Alors, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs qui ne soulève pas beaucoup de difficultés. C'est que les sociétés occidentales, ou si on parle comme Toynbee, la civilisation occidentale est la première, probablement, qui est misée à fond sur la combinaison du sapiens et du faber. Mm. C'est la première qui a trouvé le type de science qui assure la maîtrise des phénomènes naturels.
Oui, ça a marché.
C'est la première société qui possède une connaissance susceptible d'être transformée en art de manipulation, et par suite en art de production. Et c'est la première aussi qui a eu des structures sociales suffisamment souples pour qu'on laisse se développer à plein, disons, l'appétit économique et le prométhéisme technique. Cette combinaison ne s'est retrouvée nulle part, et comme vous le savez, la question qui a fasciné Max Weber toute sa vie a été de savoir pourquoi des sociétés comme la société chinoise, qui avaient presque toutes les conditions nécessaires pour se lancer dans la même aventure, ne s'y sont pas lancées. Disons que les Chinois confucéens sont restés plus sages que nous, c'est-à-dire ils ont tenu en bride la technique en dépit du développement considérable de leur savoir scientifique et technique. Par conséquent, nous nous sommes lancés dans une aventure dont on peut dire que globalement, elle risque d'être folle. Parce que économie, sciences et techniques conjuguées, livrées à elles-mêmes, aboutissent au voyage dans la Lune, mais aboutissent aussi à l'insatisfaction plus ou moins généralisée des sociétés dans lesquelles nous vivons. Donc là-dessus, nous sommes d'accord. Alors l'autre point, c'est qu'il y ait des éléments irrationnels dans l'homme. Oui, cela va de soi. Quand vous dites que les hommes sont fous, les sociétés sont folles, vous acceptez et refusez simultanément une conception limitative et rigoureuse de la raison. Vous voyez, parce qu'en opposant la rationalité scientifique et technique à la folie humaine, vous baptisez folie ce qui est l'ensemble des aspirations affectives ou religieuses des hommes.
Ah non? Non, au contraire, je baptise folie la croyance quasi unilatérale au rationnel et instinctive, car vous avez parlé du prix à payer. Moi, je dis que le prix à payer pour la société actuelle n'est pas tellement de s'y sentir mal et de l'accuser, mais le prix à payer, c'est d'avoir oublié le reste. Alors, le reste, évidemment, c'est ce à quoi nous faisions allusion tout à l'heure, c'est un plan où l'homme se découvre autrement que ne le décrit actuellement son savoir, et où on retrouve évidemment des valeurs orientales.
Attention. Est-ce que notre psychologie, notre psychanalyse, nous présente l'homme autrement qu'il n'est? Ce qui me frappe depuis un demi-siècle, c'est-à-dire depuis le tournant du siècle, c'est à quel point la science occidentale de l'homme montre celui-ci irrationnel et fou au sens où vous le prenez. Si vous voulez, les psychologues d'aujourd'hui, les psychanalystes avant tout, montrent que l'acquisition de la raison est un long et difficile apprentissage, que la reconnaissance du principe de réalité ne va pas sans sacrifice pour les désirs des individus, et que l'homme soit d'abord avant tout un ensemble de pulsions, et de pulsions vers l'imaginaire, vers des satisfactions impossibles. Tout cela, c'est l'image de l'homme que nous avons. En d'autres termes, je ne crois pas que nous ayons encore la représentation de l'homme raisonnable ou rationnel du XVIIIe siècle.
Non, certainement pas, mais je crois qu'il faut bien voir que le rationnel n'est pas seulement une méthode d'exploration et le contenu d'un savoir, c'est aussi une attitude. C'est un usage très exclusif de l'intelligence comme faculté. C'est une approche à travers la formulation des mots. C'est une activité de plus en plus violente, de l'occupation du temps. C'est un certain homme.
Est-ce que la psychanalyse, pour vous, est une expression de la rationalité?
C'est le débouché du rationnel dans une approche de l'irrationnel.
C'est-à-dire, c'est l'utilisation du rationnel pour explorer ce qui ne l'est pas.
Oui, oui. Mais c'est tout à fait estimable, c'est tout à fait intéressant. Mais l'homme rationnel ne l'est pas assez pour intégrer cette autre moitié de lui-même et cette antinomie. Et on débouche évidemment sur une philosophie de la contradiction. Et si je parle de l'Orient, je ne vais pas évoquer, bien entendu, les tartes à la crème, les recettes orientales d'une spiritualité qui me paraît toujours de mauvais aloi, parce qu'on parle là de recettes. Je parle très profondément d'une autre attitude de pensée, d'une très grande pratique simultanée du oui et du non, et d'une philosophie fondamentale de la contradiction. Or, je pense, si vous voulez, que là aussi, vous avez parlé de la psychanalyse, je parlerai volontiers de la physique moderne, qui débouche évidemment sur la contradiction, qui débouche sur une série d'attitudes qui consistent à croire et à pratiquer des interprétations carrément inverses.
Oui.
Et qui s'en débrouille assez bien.
Oui, complémentaire bon. Peut-être. Oui. Complémentaire ou contradictoire. Nous demanderons aux physiciens lequel des deux adjectifs ils préfèrent.
Quand on commence à entendre les physiciens parler d'un temps négatif, n'est-ce pas et d'un effet qui inverse son rôle avec la cause, on commence à rêver. Oui. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça oui. m'intéresse beaucoup. Je veux simplement dire qu'il y a peut-être, et c'est peut-être là la solution la plus générale de nos problèmes, et c'est ressenti confusément et d'une manière un peu enfantine par beaucoup d'éléments de jeunesse, une autre attitude que l'attitude occidentale.
M'a donné cette connaissance. Par la grâce de Guru Maharaji, les disciples de Maharaji. J'ai toujours eu un maître parfait sur Terre, et ça, depuis le commencement, depuis qu'il y a un maître parfait sur Terre. Ce maître parfait, il a toujours existé.
C'est vivre, c'est regarder les fleurs, c'est apprécier la vie, c'est se rendre compte que le ciel est bleu, c'est.
Cette connaissance, c'est-à-dire qu'il a révélé sa propre connaissance aux disciples. Le Christ en parle, Saint Paul en parle, comme la parole ou le verbe.
On commence par le qui viennent maintenant, on ne sait pas où, et que, qu'on ne peut pas se trouver, nulle part,
c'est Christ. Non, au commencement, il n'y avait rien, il y avait ce verbe, c'était vibration. Et les scientifiques disent que toute chose est vibration, toute chose vibre. Mais qu'est-ce qui fait vibrer toutes ces vibrations? Au commencement, il y a quelque chose, il y a une cause à tous ces effets. Et cette cause primordiale que connaît...
Voilà, c'est fini. Celui qui est... Alors, chaque respiration, il faut...
Alors, voilà. Parmi ses disciples, il y en a un qui deviendra son maître parfait. Bouddha avait un de ses disciples qui s'appelait Ananda. Ananda est devenu le maître parfait après Bouddha. C'est-à-dire que quand le corps de Bouddha est mort, l'âme parfaite, le pouvoir parfait s'est transféré dans les disciples, qui s'était complètement, qui avait dédié toute sa personnalité à Dieu, qui avait complètement cassé son ego, qui avait absolument fait de lui.
On se perd dans les idées, on se perd dans les théories.
C'est-à-dire, c'est comme un pendule. Et actuellement, nous entrons dans une ère qui va être une ère spirituelle. On dit qu'on entre dans l'ère du Verseau.
Raymond Aron.
Je ne crois pas beaucoup aux greffes. À cet égard, je suis un peu disciple de Spengler. Je ne crois pas qu'on puisse greffer un petit peu de religiosité orientale.
Non, moi je ne parle pas du folklore américain, n'est-ce pas, ou de Katmandou. Je dis très sérieusement que s'il est un moment, s'il est un temps pour le faire, et s'il est un espoir à y mettre, c'est bien maintenant, et pas dans 10 ou 20 ans, où il sera peut-être trop tard, c'est bien maintenant, et nous en avons des symptômes, qu'une révision profonde de la méthode occidentale, et précisément d'une tradition judéo-chrétienne que non seulement je respecte, mais à laquelle j'appartiens toute ma substance, dans laquelle non seulement j'ai été élevé, mais que j'ai vécu, mais je pense, vous appelez ça une greffe, je pense que c'est plus qu'une greffe, c'est un déchirement profond, c'est un retournement de l'extérieur à l'intérieur.
Je voudrais vous demander alors,
l'inverse.
Quelle est la réforme, la révision, le déchirement que vous concevez? Vous m'avez posé beaucoup de questions, inversant les rôles.
En deux minutes, mais quand même, il faut bien admettre que tout un savoir, mais aussi toute une activité qui se transmet en Occident des uns aux autres par le canal de l'intelligence, par le contenu du savoir, par la pratique de nos écoles, qui sont toujours l'exercice de l'intelligence et de l'acquisition du savoir, avec des petits compléments qui sont alors ce que vous appeliez des greffes, me paraît tellement faux désormais. Et les églises, par ailleurs, sont dans un tel état de crise. Et nous récitons, au point de vue, disons, des fondements de la méthode même de pensée, de si vieilles formules, si usagées, en même temps que si compliquées, que probablement c'est un retour à des choses infiniment plus simples, à un niveau de profondeur, que je n'ai aucun espoir de vous faire passer en quelques mots. Mais je dirais quand même ceci. Je dirais que nous avons une mauvaise hygiène, à la fois individuelle et collective. Nous élevons nos enfants, aucun de nos enfants n'a le sentiment, par exemple, qu'il faut s'arrêter quelques instants dans la journée. Bon, dans mon jeune temps, on me faisait faire la prière. Alors le contenu de la prière et le monsieur auquel on s'adresse est peut-être très critiquable, mais ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter pour, disons, méditer. Mmh. Bon, et quel contenu? Bon, nos collectivités cherchent éperdument à se retrouver, aussi bien dans les événements folkloriques, que vous savez que dans d'autres manifestations où on cherche un nouvel amour, un érotisme, la drogue, tout ce qu'on veut. Ce sont des symptômes. Ils ont beau être marginaux, ces marges sont hélas importantes et indiquent une grande pathologie sociale. Bon, les recettes orientales, on va les voler. Je dirais simplement que, pour répondre à votre question aussi directement que possible, je pense qu'il y a une hygiène mentale, où le corps et l'esprit sont appelés à refaire de nouvelles alliances, fort oubliées par les Occidentaux. Je dirais aussi que sur le plan de cette fameuse intelligence qui nous est si chère ici, et où nous sommes si habiles, le simple abord du principe de contradiction est terrifiant. Car si j'affirme le principe de contradiction, que je veux en même temps dire oui et non, l'instant d'après, je suis obligé de contredire ce que je viens de dire. Alors, si je laisse cette conversation sur ce point d'interrogation, je m'évacue par une porte dérobée, mais je ne sais pas la résoudre. Je sens qu'il faut assumer la contradiction, et qu'en même temps, la contradiction s'assume, se nie elle-même à certains moments de l'action. Donc, je veux bien, à certains moments, être, comme on dit, rationnel, ne dire que oui ou que non. Et à d'autres moments, je sais qu'il faut que j'assume le oui et le non, la croyance et la non-croyance. Voilà des situations qui me paraissent peu confortables, mais il me semble que si on enseignait ces rudiments à nos enfants, on les mettrait peut-être plus à l'aise pour vivre.
Vous deviendriez rationnel à ce moment-là.
Oui, j'enseignerais volontiers le rationnel et l'irrationnel conjugué.
Et après ces chants mystiques empruntés au répertoire de notre bienheureuse jeunesse, revenons aux choses sérieuses avec une dernière question posée par Claude Gleyman à Raymond Aron et à Pierre Schaeffer.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'extraordinaire réussite, enfin de la bonne réussite, disons, occidentale, à savoir l'association de l'homo faber et de l'homo sapiens, enfin bref, la société de consommation de masse telle qu'on en parle, il faudrait dire que c'était un certain succès. Et trouvez-vous pas important que précisément en Occident, on en soit venu à douter de la croissance? Et n'est-ce pas aussi une sorte de retombée, alors plus profonde, d'accident du type de celui de mai 68?
Premier point, si l'on prend les 4 ou 5 derniers siècles de l'histoire d'Occident, on a le droit de dire que la civilisation occidentale est la première qui ait laissé libre carrière à la conjonction unique de la science, de la technique et de l'économie. Et en ce sens, l'aventure occidentale, qui part d'une certaine inspiration spirituelle, a abouti à des résultats technico-scientifiques sans précédent, qui eussent été, il y a un siècle, considérés comme impensables. Enfin, bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le succès économique extraordinaire des 25 dernières années, c'est-à-dire du quart de siècle après la guerre. Car il ne faut pas oublier que dans l'entre-deux-guerres, les problèmes qui paraissaient tragiques, presque impossibles à résoudre, c'était le plein emploi, c'était la croissance, c'était l'amélioration du sort du plus grand nombre. Or, je dirais que les taux de croissance en Europe occidentale ont été dans l'ensemble double ou un peu plus du double des taux de croissance observés sur une longue durée au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle. De telle sorte que la crise morale et spirituelle de l'Occident succède au quart de siècle le plus brillant de l'histoire économique de l'Occident. Je veux dire que cette crise, je l'avais pressentie comme beaucoup d'autres, bien avant qu'elle n'explose en 1968 en France, parce que le livre auquel Schaeffer faisait allusion, à savoir les désillusions du progrès, je l'ai écrit en 64-65, c'est-à-dire bien avant que ces thèmes deviennent à la mode, je les sentais moi-même comme tout le monde. Alors, pourquoi ces désillusions? Ben d'abord parce que l'essence de l'homme, aurait dit Hegel, c'est d'être insatisfait. Et dans la mesure où il y a une réussite économique, on en mesure le prix, et que l'homme se précipite vers un autre avenir, parce qu'il ne doit jamais se contenter du présent qu'il a créé. De plus, nous savons aussi que ce qu'on appelle maintenant la société de consommation, qu'on pourrait tout aussi bien appeler la société de production, n'assouvit pas, si l'on peut dire, la soif des âmes pour s'exprimer très mal, ou ne répond pas aux besoins spirituels, que d'autre part, plus on produit, plus on crée un certain nombre de problèmes matériels et techniques, comme celui de la pollution qui est devenue tellement à la mode. Et surtout, la société productiviste n'est pas une société juste. Or, une des aspirations de l'Occident, c'était l'égalité. Et l'autre, c'était la liberté. Or, la société productiviste, numéro un, atténue les rigueurs de la misère. Elle n'atténue guère les intervalles de richesse. D'autre part, dans la mesure où la condition de la productivité, c'est la rigueur de la discipline, elle enlève à beaucoup d'individus le sens de la liberté, de telle sorte que la réussite, même matérielle, a son prix, dans une impression que la justification de produire davantage, c'est une société meilleure. Une société meilleure aujourd'hui, c'est une société plus juste, une société où les relations entre les hommes sont plus amicales. Or, le fait est que la société productiviste déchaînée ne crée pas l'amitié entre les citoyens. Elle crée plutôt une envie généralisée ou une tension généralisée. Et en particulier dans les sociétés en transformation rapide, on peut dire que le progrès social ou humain ne suit pas le progrès matériel. Donc il n'y a pas seulement la crise spirituelle d'un monde sans religion, il y a aussi la déception de constater que ce que l'on voulait désespérément dans l'entre-deux-guerres, on l'a obtenu, mais que ce qu'on a obtenu, c'est beaucoup moins que ce qu'on espérait. C'est un petit peu, pour reprendre une expression que Malraux aime à citer à propos de D.H. Lawrence et des 7 piliers de la sagesse, ce n'était donc que cela. Et en somme, je dirais volontiers, le succès économique de l'Occident, eh bien les Occidentaux disent, ce n'était donc que cela, c'est-à-dire une automobile pour 60% des ménages ou 50%, deux automobiles pour 22% d'entre eux. Dans la prochaine génération, il y en aura presque pour tout le monde et il n'y aura ni amitié entre les citoyens, ni égalité, ni tellement d'épanouissement de la personne. C'est ça la déception sociale de la société dans laquelle nous vivons. Alors tout cela, nous le savions, mais nous le disions à la manière de professeurs. Et puis les étudiants l'ont dit dans une grande explosion, j'allais dire d'indignation, et je suis tenté d'ajouter d'indignation et de joie. de joie de se défouler et de dire tout haut ce qu'il sentait fortement.
Vous êtes d'accord, Schaeffer, avec cette notion de déception sociale qui est un autre élément que l'autre chose un peu transcendant dont vous parliez tout à l'heure?
Oui, j'aimerais revenir aussi là-dessus, parce que j'enchaînerais volontiers sur la phrase que vient de citer Raymond Aron de Malraux. Ce n'était donc que cela, en ajoutant à l'homme politique et au grand témoin de son époque, cette autre face du mirage et de la magie que représentait Jean Cocteau. Dans les, je crois que c'est les Chevaliers de Table Ronde, n'est-ce pas ? On approche de son oreille la fleur qui parle. Et rien que cette phrase, la fleur qui parle, c'est toute la magie, c'est toute l'attente de centaines de milliers d'années où l'homme rêvait des pouvoirs qu'il n'avait pas. Or, nous sommes en train de parler dans la fleur qui parle. Bon. Et nous disons, ce n'est donc que cela.
La technique est décevante.
De sorte que qu'on prenne la société par un bout ou l'autre, la technique par ses prestiges, la condition humaine par ses améliorations visibles, enfin, le moindre bobo était terrible au Moyen-Âge, et nous sommes soulagés, on a complètement oublié ce stock de souffrance physique, n'est-ce pas, que nous avons éliminé, quitte d'ailleurs à l'infliger de nouveau sur des champs de bataille absurdes. Enfin, disons que un premier fait de la déception, c'est en effet de dire ce n'était que cela, c'est de voir la magie comblée par la machine, de n'en être pas satisfait, et je pense que un des résultats des machines, parce qu'on a très peu parlé de radio-télévision, et moi je ne suis pas demandeur, car c'est trop mon métier pour que j'ai envie d'en parler constamment, mais je dirais que pour joindre une des remarques de Raymond Aron qu'il fait constamment sur l'affirmation des différences, et aussi quelque part, vous faites remarquer à juste titre, que les différences contemporaines sont pour ainsi dire plus grandes, du tiers-monde, des sous-développés, des misérables, aux surdéveloppés et aux privilégiés, qu'elles n'étaient à l'âge de la pierre, sûrement, au Moyen-Âge, mais ces différences sont vues. La grande nouveauté n'est pas dans la condition sociale, et le scandale ne vient pas de la condition sociale seulement, c'est qu'elle est communiquée, elle est vue. Et elle est vue fatale. Elle est vue, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, le malaise général n'est pas forcément, les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils ne sont pas contents dans les encombrements, dans les voitures, dans les téléphones. Mais ils voient surtout sur le petit écran constamment, dans leur journal, les choses atroces qui arrivent dans le monde, et ils sont inquiets. Alors, première irrationalité, je crois que Émile Durkheim a beaucoup insisté là-dessus, enfin l'anomie, aussi le désordre, mais un désordre cette fois dans les esprits, l'impossibilité de mesurer le progrès, et pour ainsi dire, l'absence de raison de vivre pour lutter contre la souffrance. Supprimer la souffrance, supprimer les principaux obstacles au bonheur, ayez tout virtuellement possible, démocratiquement possible, ayez la liberté d'y accéder. C'est pour ça probablement que les peuples, je vais dire une énormité, que les peuples qui souffrent encore, qu'il y a peut-être plus de joie dans des pays qui sont sous le joug, n'est-ce pas, que dans des pays qui ont des libertés dont ils ne savent que faire. Alors ça, c'est quand même la première profonde irrationalité de l'homme. Moi, j'en vois une seconde. C'est que, puisque vous avez évoqué les questions d'avenir et d'arrêt du progrès,
Le stoppage de la croissance.
Nous n'en sommes pas encore là.
Mais vous savez bien que si la question se pose, je vais prendre la même attitude que, si vous voulez, pour la convergence. Je ne vais pas du tout vouloir conclure sur le fait. Je me borne à conclure sur la tendance. Et je voudrais simplement en tirer cet élément d'irrationalité. Les hommes les plus rationnels du monde, qui ont le savoir le plus éloquent, et qui ont la pratique des courbes logarithmiques, se trouvent en présence de croissance logarithmique. Mm-hmm. Bien. Ces mêmes hommes cherchent avant tout à tricher avec le logarithme. La tendance générale, si les uns disent « c'est logarithmique » et « attention », la tendance des autres est de dire « ils se sont trompés ». Ils ne nient pas que ce soit logarithmique, mais ils nient que la question se pose. Alors, moi, avec l'habitude que j'ai de vouloir outrepasser la question telle qu'elle se pose dans le fait, je dirais que j'y vois la profonde irrationalité, non seulement de l'individu analogue à celle de l'individu qui refuse sa mort, et son danger de mort, et qui pense le moins possible une société qui ne veut pas voir son danger de mort. Je me bornerai à dire ça, en disant que la question se pose pour moi dans ces termes. Et si on ne la pose qu'au plan technologique, elle ne m'intéresse pas, parce que d'ailleurs elle n'a pas de solution.
Oui, enfin, il y a tout de même une question, un problème technique qui est quel est le degré d'urgence de l'arrêt de la croissance de la population et de la production. C'est là-dessus que se disputent les savants, car ils sont tous d'accord que la croissance, aussi bien du nombre des hommes que du volume des marchandises ou des objets produits, cette croissance ne peut pas continuer indéfiniment. Seulement les uns disent, si l'on n'arrête pas au cours des 25 ou 30 prochaines années, on n'évitera pas la catastrophe, et les autres disent, on dispose d'un délai beaucoup plus grand. Et là, je me risque à ne pas être d'accord avec Schaeffer, c'est tout de même bien un problème d'ordre technique qui doit comporter une réponse non pas certaine, mais probable en fonction de données techniques. Alors, par ailleurs, il y a le problème psychologique ou presque spirituel. Dans quelle mesure une société qui, depuis une vingtaine d'années, s'est organisée pour se transformer à un certain rythme et en vue d'un certain but, peut-elle, sans reculer d'effroi, envisager de transformer son rythme de transformation? Car c'est ça le problème que crée la formule du taux de croissance zéro. Alors là-dessus, je demanderai la permission d'un autre entretien, parce qu'il faudrait voir ce qu'impliquerait de transformation dans n'importe quelle des sociétés actuellement développées, le passage à un régime de croisière fondamentalement différent du régime actuel.
Bien, mais disons, si vous voulez, pour l'amorcer, poser la question, et pour replacer la question au plan où j'aime la replacer, supposons, ce qui n'a aucune chance de se produire, le problème résolu. Pour moi, la question, en tant que déformé par mon métier, est de dire, à quel moment pourra-t-on non seulement changer de politique, car c'est la plus grande révolution occidentale qui puisse se concevoir, et les autres révolutions ne sont que des balivernes à côté de l'arrêt du progrès, non, ou le freinage du progrès. Et aurait-on une politique de rechange? Comment va-t-on s'y prendre avec les populations pour les y associer? Pour moi, ce sont des questions absolument énigmatiques. Je crois qu'il est impossible, aussi bien pour les citoyens contemporains tels qu'ils sont élevés, que pour les gouvernements tels qu'ils gouvernent, quels qu'ils soient, quel que soit le régime, il est impossible de s'arrêter et de freiner,
oui,
dans quelques délais que ce soit, sans de profondes perturbations, non seulement politiques, mais sociales et psychologiques.
Oui, alors là, je vous l'accorde, et en même temps, je vous dirai que ce qui se passera, c'est ce que vous évoquiez comme les retombées du grand mouvement de révolte contre la civilisation occidentale. Oui. Une des retombées, c'est la discussion sur le taux de croissance. Mmh. Une des retombées, c'est le nombre de jeunes Américains qui ne sont plus tellement intéressés, mmh, ni à gagner de l'argent, ni à progresser dans la hiérarchie sociale. C'est la non-pollution mise au-dessus d'autres considérations strictement économiques. Mmh. C'est-à-dire, je dirais que ce qui a pris en France une forme dramatique de protestation générale contre l'ordre existant retombera sous une forme d'une modification lente des façons de penser, modification des façons de penser qui transformera les façons d'agir. Cela dit, vous pouvez me répondre, est-ce que le rythme de ces transformations répondra aux nécessités du changement? Et alors là, je n'en sais rien. J'ai toujours un penchant à l'optimisme, c'est-à-dire de croire que finalement les sociétés prendront conscience des nécessités, puisqu'elles les ont découvertes après 25 ans de progrès rapide, et qu'aujourd'hui il y a une espèce de consensus pour repenser la société dans laquelle nous sommes. Cela dit, les contraintes sociales, je le reconnais, sont extrêmement fortes.
Attention, il y a un consensus
abstrait,
d'inquiétude, abstrait. Il y a dans les mouvements de jeunesse que nous avons évoqués, ce que j'aimerais, alors, enfin, l'aspect positif sur lequel je crois que vous êtes d'accord, c'est-à-dire un instinct probablement tout à fait inconscient, un conscient collectif, appelons-le comme ça, qui fait que la race humaine, l'espèce humaine dans son ensemble a poussé ici et là quelques cris d'alarme tout à fait irrationnels, et heureusement irrationnels, mal interprétés, mais je ne vois pas comment. Les populations suivront, et moi je suis très pessimiste, c'est-à-dire que j'augure aucun phénomène, disons, de rationnel président à cette décélération. Je ne vois aucun pilote d'aucune fusée globale, planétaire, qui puisse régler un atterrissage en douceur, et je pense qu'il se passera des phénomènes venant de l'inconscient collectif ou de l'irrationalité ici et là, et que nous entrerons dans une période fort fâcheuse.
Oui, mais je vous l'accorderai, tout dépend de ce que l'on appelle optimisme, parce que la société dans laquelle nous vivons n'est pas née sans un certain nombre de catastrophes, sans beaucoup de souffrances. Enfin, le chemin de l'humanité est semé de cimetières, de guerres absurdes, de souffrances inutiles. Et je pense en effet que la décélération, si elle doit survenir, ne sera pas opérée comme je l'ai décrite, en fonction d'un calcul rationnel, de l'allure qu'il faut donner. Bien entendu, tout ça ne se passera pas en douceur. Tout ce que je veux dire, c'est que je crois que l'humanité, d'une façon ou d'une autre, mal comme d'habitude, surmontera la crise.
Bien. J'aimerais que vous ayez raison contre moi.
C'était Pierre Scheffer et Raymond Aron sur les mutations de la société, un numéro de l'émission Dialogue proposé par Roger Pilaudin, diffusé la première fois le 13 février 1973 sur France Culture.